Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Un bouclier et des attaques comme des flèches. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que cela signifie? Pour pouvoir comprendre, le Seigneur m'a donné un passage dans l'Ancienne Alliance. Je feuilletais dans la Nouvelle Alliance et je voyais certains passages qui parlent de foi et qui nous amènent à comprendre ce qu'est la manifestation de la foi. Mais ce soir, nous voudrions comprendre ce qu'est la protection par la foi. Protéger quoi? Protéger qui? Protéger de quoi? Il faut savoir que la foi se manifeste sur deux positions. Il y a la foi permanente et il y a ce que la Bible appelle le don de la foi. Lorsque nous venons à Christ, nous recevons la foi permanente. Nous recevons la foi utile pour croire en Jésus-Christ et commencer à manifester les promesses de Christ, commencer à manifester la vie chrétienne, commencer à manifester la marche, non point par la vue, mais par la démonstration de ce que nous possédons dans le ciel. C'est ainsi que Jésus dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénevé, vous pourriez faire des choses extraordinaires. Jésus parle de la foi permanente, de la foi que nous avons reçue le jour où nous nous sommes convertis. La foi est quelque chose qui s'entretient, qui doit grandir, qui doit se développer, qui doit se fortifier. La foi que nous recevons est celle dont parle Jésus, notamment dans Matthieu 8, 13, où il dit qu'il soit fait selon ta foi. La foi permanente a besoin de grandir. Comment est-ce que Dieu va faire grandir notre foi permanente, la foi installée dans nos cœurs? Il va le faire tout simplement avec deux moyens. Le premier moyen, c'est l'exercice de la vie chrétienne. Toutes les expériences que nous faisons, toutes les attaques que nous subissons sont faites pour motiver notre foi et nous faire grandir. Nous sommes sur terre et nous passons un test. La terre n'est pas destinée à nous accueillir éternellement. Et si vous construisez votre vie sur terre en pensant que vous allez rester éternellement sur terre, vous ferez naufrage. Nous devons construire notre vie terrestre en fixant nos regards sur la rétribution des justes et sur la couronne de vie qui nous sera donnée à l'issue de notre vie terrestre. La vie terrestre est un test. Dieu éprouve. Le Seigneur ne fait rien sans faire passer sa création par l'épreuve. Écoutez bien, Dieu m'a révélé que le mal existait tout simplement pour éprouver la pureté et la puissance de sa créature et de sa création. C'est ainsi que Dieu ne peut pas accueillir dans son royaume quelqu'un ou quelque chose qui n'aurait pas été éprouvé par le feu de sa justice. Dieu ne peut pas accueillir dans son espace quelqu'un qui n'est pas passé par le feu de l'épreuve et qui n'a pas été sanctifié. C'est ainsi que lorsque nous rencontrons des épreuves, nous passons au travers le feu qui nous sanctifie. La Bible nous dit que la parole a été épurée 7 fois. Avant d'être donné, avant que Dieu n'utilise sa parole, il l'a épurée 7 fois devant lui. Et avant que Dieu nous accueille dans le ciel, il désire nous épurer afin que la beauté de notre âme soit parfaite au jour de l'enlèvement. Ce n'est pas dans le ciel que l'on révèle la beauté et la pureté de l'âme, c'est sur terre. C'est sur terre que l'âme est nettoyée, lavée, travaillée, embellie. Et c'est au ciel qu'elle reçoit son véritable éclat. À l'intérieur de chacun d'entre nous se trouve un éclat céleste. Savez-vous qu'au jour de l'enlèvement, ce qui est visible va disparaître et ce qui est caché dans le cœur va se révéler. Ce n'est pas que Dieu va nous revêtir d'une lumière, c'est que Dieu va révéler la lumière de nos âmes. Parce que Christ vit en nous. Alors la foi doit se construire jour après jour. Comme je le disais, Dieu utilise deux moyens pour faire grandir cette foi et fortifier cette foi. Le premier moyen, nous l'avons compris, ce sont les épreuves, c'est la vie quotidienne avec le Seigneur, c'est les expériences que nous vivons. Et la deuxième façon, c'est une grâce qui descend du ciel. C'est ce que l'on appelle le don de la foi. Nous trouvons le don de la foi dans 1 Corinthiens 12, verset 9. Vous savez que 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, nous énumère les 9 dons spirituels ponctuels, qui n'ont rien à voir avec le ministère, qui n'ont rien à voir avec des dons qui sont permanents. C'est la ponctualité de l'esprit qui vient animer quelqu'un. Dans cette liste des 9 dons spirituels, nous trouvons le don de la foi. Le don de la foi n'est pas la foi ordinaire. Le don de la foi, c'est ce que Dieu nous donne pour élever la foi personnelle et la foi ordinaire. C'est ainsi que lorsque nous sommes face à un problème et que nous exerçons notre foi et que nous mettons en pratique notre foi et que cela ne suffit pas parce que notre foi n'est pas suffisamment à niveau, alors Dieu nous fait une grâce, il fait descendre le don de la foi. C'est ainsi que surnaturellement, vous êtes saisis d'une foi qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas une foi ordinaire, qui est une foi extraordinaire, qui va vous pousser à faire quelque chose, et en faisant cette chose, la foi ordinaire va grandir. Nous ressortons grandis lorsque nous sommes touchés par le don de la foi. La première fois que j'ai vu un paralytique marcher, c'est lorsque c'était en Côte d'Ivoire, dans le sud de la Côte d'Ivoire, à Tabou précisément. Et je venais pour prêcher et au bout de 2 minutes, l'Esprit de Dieu me saisit et Dieu me dit « Je vais te montrer ce que c'est que la foi ». Sans que je puisse contrôler même mes jambes, je suis descendu de l'estrade et le premier paralytique qui était là, je l'ai pris, je l'ai levé, il s'est mis à courir. J'étais moi-même surpris. J'étais terriblement surpris. Et Dieu m'a dit, tu vois, fils, tu viens de vivre le don de la foi. Maintenant, ta foi va être plus puissante. Il faut être disponible et être sensible à ce que Dieu fait. Il y a des obstacles qui nous semblent insurmontables. Dieu a toujours prévu un don de foi pour que nous puissions surmonter l'épreuve, sortir de cette épreuve avec une foi ordinaire plus grande. C'est pourquoi nous devons comprendre ce qu'est la foi, à quoi elle sert et comment nous pouvons l'utiliser en tant que bouclier. C'est ce que nous allons voir dans Genèse. Je vous ai promis un texte ancien testamentaire qui est toujours tout à fait d'actualité et qui va nous enseigner ce soir. Ouvrons nos Bibles dans Genèse, chapitre 15, verset 7. Nous allons découvrir que la foi est un bouclier et que la foi doit rester attachée à notre bras. L'image du bouclier sur le bras est très forte. Nos actions déterminent le bouclier de la foi. Par nos actions, nous démontrons que nous possédons la foi comme un bouclier. La foi n'est pas passive, la foi est active. Nous allons voir comment Abraham a manifesté le bouclier de la foi. Peut-être si l'apôtre Paul eût été à ses côtés, il lui aurait dit « Oh, ce que tu viens de faire, c'est l'action d'une arme spirituelle. Tu as animé le bouclier de la foi, père Abraham. » Abraham ne connaissait pas ces choses, mais aujourd'hui elles nous sont révélées. Que Dieu soit béni pour la grâce que nous avons d'avoir le Saint-Esprit et d'être l'Église de Jésus-Christ. Je lis avec vous. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Voilà l'épreuve de la foi. Écoutez bien, lorsque Dieu nous fait une promesse, il faut toujours découvrir de quelle manière il va nous utiliser pour entrer dans cette promesse. Les promesses sont visibles à travers nos actes de foi. C'est à travers notre engagement que les promesses se réalisent. Abraham dira, « Que dois-je faire pour le posséder, ce pays ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Quelle curieuse chose, étrange façon d'offrir un sacrifice à Dieu. Nous allons comprendre pourquoi Abraham a fait cela. Il prend les animaux et il les coupe en deux. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Alléluia. Dites avec moi, je vais chasser les oiseaux qui s'abattent sur mon sacrifice. Je vais chasser les oiseaux qui s'abattent sur mon sacrifice. Alléluia. Partout où il y a sacrifice, il y a les oiseaux de proie. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Quelle étrange chose! Ce qui va succéder à la vie d'Abraham va être une épreuve pour ceux qui le suivent. Tous ceux qui veulent suivre les pères de la foi devront suivre le chemin de l'épreuve, alléluia. Nous ne pouvons pas recevoir la foi sans connaître le combat spirituel. Nous ne pouvons pas entrer dans la foi sans saisir les armes offensives et les armes défensives. Et il s'agit bien là ce soir de comprendre le bouclier défensif. Je voudrais préciser qu'Abraham a fait un peu plus loin, au chapitre 22, un autre sacrifice. Il nous est parlé ici d'un sacrifice et non pas d'un holocauste. Le sacrifice, c'est ce que nous donnons en témoignage de notre amour et de notre foi pour Dieu. C'est le signe de notre engagement avec lui. L'holocauste, qui a été fait un peu plus loin avec Isaac, n'est autre que l'image de Jésus crucifié à la croix qui a pris nos péchés. Nous ne faisons pas de sacrifice pour nous substituer au pardon de Dieu. Aucun de nos sacrifices ne pourra se substituer au pardon et au sang de Jésus-Christ. Nous recevons le pardon par la foi et par grâce. Aucune de nos œuvres ne pourra quoi que ce soit au plan de la rédemption. Il faut que les choses soient claires. Il y a des gens qui pensent que s'ils ont plus de foi, ils seront de meilleurs chrétiens et ils hériteront la vie éternelle par ce fait. C'est absolument faux. La foi est spécialement utile pour votre vie terrestre. Dans le ciel, il n'y aura plus besoin de la foi. C'est sur terre que nous avons besoin de manifester la foi. Quelle chose extraordinaire! Vous savez, il y a des gens qui se retournent en enfer et qui crient « Je voudrais retourner sur terre et exercer la foi !» Mais ils ne peuvent plus, trop tard. C'est le moment d'exercer la foi. La chose la plus merveilleuse que Dieu nous donne, l'expérience de l'invisible. Nous n'aurons plus ce privilège dans le ciel. Nous n'aurons plus ce privilège. C'est ici-bas qu'il faut le vivre. Alors, nous voyons notre bien-aimé Abraham, père de la foi, qui va faire un sacrifice, et ce sacrifice va lui être dicté par le Seigneur. Nous voyons que ce n'est pas Abraham qui a décidé quel sacrifice il devait faire, mais c'est bel et bien le Seigneur, le Dieu, l'Éternel des armées, qui va lui dicter exactement comment et avec quoi il va faire le sacrifice. Nous avons ici l'image du sacrifice de nos vies. Nous avons ici l'image du sacrifice perpétuel de nos vies, sacrifice qui se renouvelle chaque jour. Il y a le sacrifice pour une chose, mais il y a aussi le sacrifice de notre vie. Et c'est cela que le Seigneur veut. Le bouclier de la foi est particulièrement utile pour protéger le sacrifice de nos vies. Lorsque Abraham a mis les animaux, en fait, il a prophétisé sur la vie du chrétien. Il y a là 5 animaux qui correspondent chacun à ce que nous sommes. Nos pieds, notre bouche, nos mains, nos yeux, nos oreilles, tout ce que nous sommes, tout ce que nous ressentons, tous nos sens sont amenés en sacrifice devant Dieu. Si vous voulez avancer et progresser avec le Seigneur, il faut tout livrer. Si vous gardez quelque chose pour vous, vous ne pourrez pas progresser dans la foi. Tout ce que vous retenez sera une retenue dans le domaine de la foi. Il faut abandonner au Seigneur. Il y a un prix à payer pour faire grandir la foi. Le prix du sacrifice et de l'abandon de nos vies. Abraham, en sacrifiant sur cet autel, a donné l'image du sacrifice perpétuel de nos vies jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Vous savez, on se convertit en quelques instants. On est convaincu de l'amour de Jésus et on lui donne son cœur en quelques instants. Mais le sacrifice de notre vie ne dure pas quelques instants. Il dure toute la vie. C'est ainsi que nous allons comprendre le combat d'Abraham qui a lutté du matin jusqu'au soir pour préserver son sacrifice. Il y avait là ses victimes et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre pourquoi Abraham a pris ses animaux et les a coupés par le milieu. Il y a là une signification spirituelle et prophétique pour nos vies. Abraham l'a fait pour 2 raisons. La première, elle est spirituelle dans le sens où Abraham n'avait pas encore la loi et Dieu avait déjà transmis la loi orale. Je m'explique. Avant Moïse, ceux qui faisaient des sacrifices et qui servaient le Dieu d'Israël, ceux qui servaient le vrai Dieu, étaient inspirés dans leur service par ce que l'on appelle la loi orale. Il y a eu le temps de la loi orale, il y a eu le temps de la loi écrite, et il y a maintenant le temps de la loi faite chair. Alléluia. Dieu a procédé en 3 étapes pour révéler la parole, Jésus-Christ. Avant que la loi ne soit écrite, comme je l'explique, ceux qui étaient adorateurs du Dieu vivant étaient inspirés dans leurs actions. C'est ainsi qu'ils ont été inspirés pour offrir le sacrifice avant même que Moïse ne le prescrive dans la loi. C'est ainsi que la dîme a été prescrite oralement, inspirée de Dieu et transmise oralement avant même que Moïse ne le prescrive, avant même que cela ne soit écrit. Et c'est ainsi qu'il y avait une coutume inspirée de Dieu. Vous savez, il y a des coutumes orales comme ça dans nos sociétés qui ne sont absolument pas inspirées de Dieu. Il faut se méfier de la coutume. La coutume est quelque chose de très dangereux. La coutume a toujours une origine spirituelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont liés dans les maladies, qui sont liés dans le célibat, dans le divorce, parce que dans leur famille, il y a eu la coutume. La coutume qui a lié par la parole, par les actes, par les fétiches, par les objets qui ont été mis dans la famille, les objets, vous savez, que l'on se transmet de père en fils, les objets dont on ne sait pas d'où ils viennent vraiment. Il y a des coutumes que nous devons crucifier et dont nous devons nous débarrasser. Moi qui prêche souvent en Afrique, je peux vous assurer que c'est un de mes grands combats. Je lutte contre la coutume parce que la coutume est ancrée dans la vie même sociale. Mais nous avons aussi nos coutumes en Europe. Alors, il faut comprendre que dans la coutume du peuple juif, il y avait une inspiration qui venait directement du ciel. L'inspiration était donc ici, et Abraham savait que pour offrir un sacrifice à Dieu, il fallait couper l'animal en deux, afin de passer entre chaque morceau et d'identifier sa personne au sacrifice, afin de faire un pacte avec Dieu. Nous trouvons cela, si nous voulons regarder, dans Jérémie 34, 18. C'est le seul verset qui nous permet de comprendre, selon la loi orale, pourquoi est-ce que Abraham a coupé les animaux en deux. Ensuite, nous allons comprendre spirituellement ce que cela signifie. Jérémie 34, 18 nous dit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Est-ce que la loi de Moïse parle de ces choses-là? Non, c'est la loi orale qui a été conservée dans la coutume et qui était pratiquée. Une coutume que Dieu avait inspirée et que Dieu approuvait. C'est ainsi que Dieu disait, lorsque vous faites le sacrifice, vous pouvez couper l'animal en deux et passer en signe de pacte et d'alliance. Vous pourrez ainsi vous identifier à la victime et je vous bénirai et je prendrai acte et fait de l'alliance que vous faites avec moi et je ferai alliance avec vous. Alléluia. Nous allons voir à la fin du récit que Dieu va passer entre les animaux. Cela est le signe de l'approbation du sacrifice d'Abraham. Dieu passe dans notre vie. D'abord, nous lui livrons notre vie et au sein de cette vie que nous ouvrons, que nous dépouillons, que nous mettons à nu devant lui, nous faisons l'offrande et nous faisons un pacte. Il faut faire des pactes avec Dieu. Faites des pactes avec Dieu. Engagez-vous avec Dieu. Ça, c'est la foi. La foi s'engage. La foi se démontre au plein jour. Le diable fait les œuvres dans les ténèbres, mais nous, chrétiens, nous faisons les œuvres en pleine lumière. Et nous les faisons en alliance avec Dieu en pleine lumière. C'est pourquoi il nous faut le bouclier de la foi, parce que le malin nous voit, parce que les hommes impies nous voient, et ils chercheront à nous détruire. Il faut faire alliance avec le Seigneur. Venez sur le terrain de l'épreuve. Et vous verrez si Dieu ne vous répond pas. Faites alliance, faites-lui des promesses. Dites-lui, Seigneur, je m'engage maintenant. Je te fais un sacrifice, je dépose ce sacrifice devant toi. Et je sais que tu fais un pacte avec moi, Seigneur, parce que tu agrées mon sacrifice. Alors, les animaux étaient coupés en deux. Quand j'ai lu ces choses, mon esprit a tout de suite pensé dans le jardin de Gethsémané. Le traître s'est avancé, il a fait une accolade à Jésus et il lui a donné le baiser de la trahison. Judas, ô Judas, tu avais marché avec Jésus, tu avais fait alliance, tu avais fait un pacte. Judas avait fait alliance, il avait marché au milieu même du sacrifice. Il était passé dans l'alliance avec Jésus. Mais voilà qu'il a trahi l'alliance. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est encore sous le règne de l'Ancien Testament. Il est encore sous le règne de la loi. Et le verset va s'appliquer à lui maintenant. Jérémie va frapper Judas. Jérémie 34, 18 va s'abattre. Celui qui ne respectera pas l'alliance, en coupant les animaux et en passant, je détruirai. Dans la loi orale, ceux qui faisaient une alliance avec Dieu et un pacte savaient que s'ils ne respectaient pas ce pacte, en passant au travers les animaux, ils subiraient une condamnation terrible, au point même que Dieu pourrait déchirer leur chair. Lorsque Judas a eu fini de rompre son pacte, la Bible nous dit qu'il s'est pendu. Et il est tombé, il s'est fendu en deux, les entrailles ouvertes. Il avait rompu le pacte et l'alliance, et Dieu l'avait déchiré en deux. Ce n'est pas le choc qui a rompu son corps, c'est la puissance de Dieu qui l'a frappé. La malédiction à cause de sa rupture d'alliance. Je vous dis que ce que Judas a subi dans son corps n'est rien à côté de ce qu'il subira dans l'enfer. Ne rompez jamais votre alliance avec Dieu. Si vous avez fait une alliance sincèrement devant le Seigneur, devant un homme de foi, devant l'Église, si sous l'onction d'huile, vous avez confessé, on vous a oint et vous avez fait alliance avec Dieu, je vous en supplie, ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. La malédiction de la loi peut vous attraper. Nous ne sommes plus sous la condamnation si nous restons avec Jésus. Il faut bien le dire, il n'y a plus de condamnation. Et nous pouvons fauter si nous nous repentons et que nous revenons de nos mauvaises voies. Dieu nous fait grâce. Mais si nous persistons dans la rupture de l'alliance, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec la loi. Nous jouons avec la justice de Dieu. C'est ainsi que Abraham, très certainement tremblant, a coupé les animaux et est passé au travers, et a su qu'il faisait pacte avec Dieu et qu'il ne fallait pas qu'il rompe ce pacte. Dieu l'avait destiné à être père d'une grande multitude, et il devait accomplir cela et accepter ce que Dieu voulait faire avec lui. Est-ce que vous avez accepté ce que Dieu veut faire avec vous? Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai reçu une prophétie merveilleuse », mais est-ce que nous pouvons porter le poids de notre engagement? L'alliance dans laquelle nous sommes entrés est ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Abraham est passé entre les animaux. Nous serons, selon la loi orale toujours, selon les histoires des rabbins, selon ce qui se raconte, nous savons aussi que du temps de Moïse, lorsqu'il y avait des sacrifices, le sacrificateur prenait le couteau et il ouvrait les animaux en deux pour montrer l'impact de l'alliance de celui qui venait faire le sacrifice. Mais la loi nous dit aussi quelque chose. Le sacrificateur prenait un plaisir à ouvrir l'animal en deux. Et savez-vous pourquoi? Parce que le sacrificateur ne sonde pas les reins et les cœurs. Et le sacrificateur ne pouvait pas voir à l'intérieur de l'animal s'il y avait un défaut. Vous savez que si le sacrifice était apporté avec un défaut, si on amenait un animal qui avait un défaut, ce n'était pas un sacrifice qui pouvait être reçu. Il fallait que l'animal soit sans défaut, à l'image de Christ. Il faut que notre sacrifice soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait des discussion ou des compromis dans ce que nous offrons à Dieu. Il faut que nous l'offrions pleinement et parfaitement. Alors le sacrificateur savait que peut-être un juif qui venait avait peut-être eu la malice de savoir que l'animal était malade, mais extérieurement on ne voyait rien. Alors peut-être il pouvait tromper le sacrificateur. Mais voilà que le sacrificateur prend l'animal, il le met sur l'autel. Et avec son couteau tranchant, il l'ouvre en deux et il regarde à l'intérieur s'il n'y a pas quelques défauts, s'il n'y a pas déjà une maladie, une pourriture. Je vais vous dire quelque chose. Le regard de Dieu est bien plus tranchant que le couteau du sacrificateur. Le regard de Dieu qui pénètre nos vies est bien plus tranchant que le couteau du sacrificateur. Lorsque vous offrez votre vie au Seigneur, lorsque vous offrez quelque chose à Dieu, sachez que vous ne pouvez rien dissimuler. Et même si vous dissimulez au vu des hommes, l'œil de Dieu est tranchant et il va pénétrer jusque jointure et moelle. L'épée de la parole de Dieu va trancher. Dieu va regarder au plus profond, au cœur de votre sacrifice. Et vous pouvez tromper les hommes, et vous pouvez tromper les pasteurs, vous pouvez tromper les hommes de Dieu, vous pouvez tromper votre entourage ou l'Église et faire semblant de sacrifier à Dieu. Mais le Seigneur, lui, le grand sacrificateur, a l'œil plus perçant que le couteau du sacrificateur terrestre. Alors, nous comprenons qu'Abraham était entré maintenant dans ce sacrifice. Nous comprenons que il avait donné à Dieu, il avait prophétisé sur sa vie, il avait fait un pacte d'engagement en disant, Seigneur, quelque part, je saurai que tu m'as béni par l'alliance que j'ai faite avec toi. Si vous voulez être béni, faites alliance. Il demande à Dieu, à quoi saurai-je? Comment est-ce que je vais pouvoir savoir que tu vas me donner ce que tu m'as promis? Dieu lui dit, prends et va faire le sacrifice. Commencez par faire des sacrifices pour Dieu et vous allez recevoir votre promesse. J'ai prêché hier, j'ai dit que nos deux amis de la Bible que nous allons trouver dans le ciel, Joseph d'Arimathée et son collègue du Sanhédrin, qui allait voir Jésus secrètement la nuit, lui aussi, Nicodème, ont apporté quelque chose pour ensevelir le corps de Jésus. Ne venez jamais à l'église les mains vides. Ne venez jamais à l'église les mains vides. Apportez quelque chose. Et je vais vous dire, n'attendez pas qu'on fasse un appel à l'offrande pour donner vos offrandes. Faites-le. Faites un sacrifice. Ne venez pas dans la présence de Dieu sans rien donner. Ne venez pas dans la présence de Dieu en recevant tout le temps. Pour moi, Seigneur. Oh, pour moi, Seigneur. Comme c'est bon pour moi. Il faut savoir donner un peu. Il faut donner vos vies. Il faut faire sacrifice. Il faut prendre des engagements. Il faut faire un pacte avec le Seigneur. Et il faut donner un peu de votre personne et de vos biens pour l'avancement du règne de Christ. Il y a des sacrifices ponctuels. N'attendez pas qu'on vous dise de le faire. Faites-le. Alors, Abraham était là. Il savait maintenant que la promesse pouvait se réaliser à travers son sacrifice et son alliance. Il va commencer tôt le matin, car c'était l'habitude. Abraham n'a pas fait son sacrifice en milieu de journée ou en fin d'après-midi. Il s'est levé de bonne heure le matin. Il s'est levé de bonne heure pour offrir son sacrifice à Dieu. C'est un peu l'image du démarrage de nos vies. Nos vies démarrent et elles vont vivre toute une journée, tout un cycle pour mourir et pour s'endormir dans les bras du Seigneur. Voilà qu'il se lève de bonne heure le matin et il va prophétiser. Toute la journée, il va se battre. Toute la journée, il va élever le bouclier de la foi. Il va protéger son sacrifice. Alléluia! Dites avec moi, je vais protéger mon sacrifice. Par le bouclier de la foi, je vais protéger mon sacrifice. Votre sacrifice appartient à Dieu, il n'appartient à personne d'autre. Ne laissez pas le diable reprendre ce que vous avez sacrifié pour Dieu. Ne laissez pas le diable détourner ce que vous avez sacrifié pour Dieu. Alors voilà notre père Abraham qui commence à scruter le ciel. Au petit matin, il n'y a rien. Il est tranquille. Et il va s'engager dans le sacrifice. Suivez-moi bien. Imaginez la scène. Abraham reçoit une promesse extraordinaire. Dieu lui dit, tu vas reconnaître que cette promesse s'accomplit à travers un sacrifice que tu vas faire. Tu vas faire alliance avec moi. Alors Abraham, heureux, se lève le matin. Mais il sait que quelque chose va se passer dans la journée à propos de ce sacrifice. Il se lève le matin, le ciel est dégagé, et il commence à sacrifier, à couper les animaux. Il est seul avec son Dieu. Il fait alliance, il passe. Oh mon Dieu, j'accepterai ce que tu me donnes et je ferai sacrifice de ma propre vie pour toi. Nous devons offrir nos vies en sacrifice. Ne savez-vous pas que la Bible nous invite à le faire? Romains 6, 13, 14, que nous connaissons bien. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Nous sommes sous la grâce. Et par la grâce de Dieu, nous ne renierons pas notre sacrifice. Alléluia. Par sa grâce, nous tiendrons bon jusqu'au bout. Si vous êtes là ce soir, si vous êtes là nourri de la parole de Dieu, c'est que le Seigneur ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Faites alliance, n'ayez pas peur, engagez-vous. Il est le souverain maître qui veille sur votre engagement. Alléluia. C'est lui qui veille sur votre engagement. C'est lui qui veille et qui prend soin de chacun de nos jours, qui prend soin de chacune de nos décisions. Voilà Abraham. Le sang commence à couler. Les animaux sont maintenant à ciel ouvert. Et sitôt que Abraham a commencé à passer entre les animaux, quelque chose se passe dans le ciel. Je vais vous dire, à l'instant précis, écoutez bien, à l'instant précis où le sang du sacrifice commence à couler, les oiseaux sont affamés, le diable est affamé, le diable est intéressé par la couleur du sang. Le diable est intéressé par l'odeur du sang. Lorsque nous faisons quelque chose qui nous coûte, le diable sent. Et cette odeur l'intéresse. Il n'est pas intéressé par les gens qui ne font pas de sacrifice. Si vous n'avez pas la foi, il n'est pas intéressé de venir tourner au-dessus de vous. Mais dès l'instant où le sang coule, l'enfer se réunit au-dessus de vous. Dès l'instant où vous commencez le sacrifice, le diable appelle ses démons dans le ciel au-dessus de vos têtes. Le jour où Jésus est mort et où le sang a coulé, les démons, tous les démons de l'enfer étaient là. S'ils avaient pu faire échouer le plan de Dieu, ils l'auraient fait. Ils tournaient autour du sacrifice. Mais ils n'ont pas pu toucher au sacrifice. Alléluia. Les démons viennent précisément au moment où nous nous engageons. Et ils sont là toujours au bon moment. Le diable ne perd pas son temps. Le diable perd beaucoup moins son temps que nous, je vous assure. Par moments, nous perdons notre temps, mais lui ne perd pas son temps. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'il perd son temps, parce que nous avons le bouclier de la foi. Alors Abraham va commencer à manifester la foi. Il sait que maintenant l'alliance est faite. Il sait que le sacrifice est fait. Son seul objectif, il a fait son sacrifice peut-être en 3 quarts d'heure ou 1 heure. Mais il sait maintenant qu'il va passer des heures à protéger son sacrifice. Alléluia. Ne croyez pas que les oiseaux ont tourné un peu, 1 quart d'heure et sont partis. Non, ils sont restés jusqu'au soir à tourner autour du sacrifice. Les oiseaux de proie étaient intéressés. Et à chaque fois qu'un oiseau de proie fonçait, Abraham le détournait de son bras. Abraham le chassait. Abraham protégé par la foi, les traits enflammés qui venaient du ciel. Nous devons protéger toutes ces agressions spirituelles qui viennent dans nos maisons, dans nos familles et dans notre corps. Le bouclier de la foi. J'ai offert mon corps à Jésus. C'est pourquoi si je suis atteint par une flèche de maladie, je vais me protéger. Parce que ce sacrifice appartient à Dieu. 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 Alléluia! Ça n'appartient pas à Satan. Jamais. Jamais. Il n'a aucun droit sur mon corps et sur ma vie. Et dès l'instant où j'offre au Seigneur, il peut toujours tourner. Je protégerai du bouclier de la foi. Et par le bras de l'action, je prouverai qu'il ne peut pas toucher à mon sacrifice. Le bouclier de la foi doit être en action. Il doit être en mouvement. Abraham était là et tout a dû bien se passer. Jusque ce que le soleil soit au zénith, la chaleur du jour a commencé à le travailler. Et voilà que Abraham devait transpirer et commencer à être fatigué. Peut-être même il était là prêt à s'endormir, mais il a lutté contre le sommeil et il est resté vigilant jusqu'au bout. Il a attendu que Dieu passe sur son sacrifice, que Dieu honore son sacrifice. Il faut de la patience. Dieu va de toute façon honorer votre sacrifice. Je ne connais personne qui, ayant fait un pacte et un sacrifice avec Dieu, n'a pas eu en retour la bénédiction du ciel. Oh, pasteur. Non, je vous dis ceci, je n'ai jamais vu dans mon ministère quelqu'un qui, offrant à Dieu, n'ait pas eu en retour la bénédiction au centuple. Alléluia! J'ai vu des hommes abandonner femmes et enfants pour partir en mission. J'ai vu des hommes perdre dans la bataille spirituelle. Le diable est venu leur ravir l'enfant ou la femme. Mais ils ont retrouvé la famille de Dieu et n'ont jamais été orphelins. Je vous dis que quoi que ce soit que vous puissiez perdre dans la bataille, Dieu va vous rendre son tuple. Dieu va vous rendre son tuple, c'est pour votre bien. Je ne connais personne qui, ayant servi le Seigneur, mendie son pain, comme nous dit la parole. Jamais. C'est le bouclier de la foi. Souvenez-vous, les oiseaux du ciel tournent et ils sont prêts à s'abattre sur votre vie, sur votre sacrifice. Protégez ! Protégez du bouclier de la foi ! Mettez en action votre vie. Voilà que Abraham a dû supporter la chaleur du jour. Et il est vrai que parfois nous disons, oh Seigneur, c'en est trop Seigneur, la chaleur est trop forte, je traverse un désert. Mais le Seigneur te dit, préserve, préserve, préserve ton sacrifice, alléluia. Savez-vous ce qui s'est passé? Abraham voulait offrir quelque chose de parfait au Seigneur. Il ne voulait pas offrir la moitié d'un sacrifice et il ne voulait pas que quelqu'un lui prenne la moitié de son sacrifice. Ne permettez à personne de vous prendre ce que Dieu vous a donné. Ne permettez à personne de reprendre ce que vous avez livré à Dieu. Si vous faites une offrande généreuse pour le Seigneur, arrangez-vous que personne dans votre famille ne vienne revendiquer. Nous avons connu ces choses. Dans mon église, dans mon ministère, lorsqu'on vient me faire un don important, je fais faire un papier. Et la famille peut toujours se présenter pour dire que cet argent-là doit être rendu à la famille. Vous savez, le diable est malin. Nous avons connu ces choses. Un pasteur, un bien-aimé frère que je connais, une dame, une vieille chrétienne, au moment de mourir, a donné sa maison. Et sitôt que la maison a été encaissée, vendue par l'église, la famille est venue taper à la porte. Notre maman vous a donné cette maison, mais vous allez nous la redonner. Parce que nous allons prouver en justice qu'elle ne vous a pas donné cela, saine de corps et d'esprit. C'est ainsi qu'ils ont dû rendre. C'est ainsi qu'ils ont dû rendre. Prenez vos précautions. Soyez intelligents pour Dieu. Ne vous laissez pas faire. Protégez votre sacrifice. Le bouclier de la foi nous invite à nous informer de comment nous pouvons protéger ce que nous donnons à Dieu. Alors, Abraham ne voulait pas que le Seigneur passe et qu'il trouve la moitié du sacrifice. Savez-vous par quoi les oiseaux de proie étaient le plus intéressés? Par la chair de la victime. Si Abraham s'était découragé, s'il avait laissé un tant soit peu le sacrifice sans en prendre soin, s'il n'avait pas protégé de son bras, s'il n'avait pas chassé les oiseaux de proie, s'il s'était un peu écarté, un oiseau aurait plongé et il aurait pris la chair du sacrifice. Mais Abraham ne voulait pas que lorsque Dieu passe, il ne trouve que des os. Il y a des gens, ils ne laissent que les os. Ils ont offert à Dieu, mais ils n'ont rien protégé. Ils ont dit au Seigneur, je te donne mes poumons, je ne fumerai plus. Oh Seigneur, je te donne la dîme de mes biens. Oh Seigneur, je te donne le sacrifice de ceci ou de cela. Mais petit à petit, le diable a récupéré et ils n'ont laissé que des miettes au Seigneur. Ils ont laissé l'ennemi prendre leur sacrifice et le cacher. Abraham n'aurait jamais voulu que Dieu passe et ne voit que des os. Abraham, Abraham, où est la chair de ton sacrifice? Où est la vie de ton sacrifice? Il y a des églises mortes, je vous le dis. La vallée des ossements desséchés. Nous ne trouvons que des os. Nous ne trouvons que le vestige, le souvenir de ce qui a été un sacrifice. Nous ne trouvons que la trace d'un souvenir parce que le diable est méchant. Oh, le diable est méchant! Il ne va pas tout prendre, il va laisser les os pour vous torturer encore plus. et pour qu'on vous accuse, il va laisser la trace de son vestige. Il y a comme ça, dans l'Antiquité, des guerriers qui laissaient toujours un morceau de mur, un morceau de vestige dans les villes qu'ils saccageaient. Ils passaient, ils prenaient possession et ils laissaient toujours un vestige pour qu'on se souvienne qu'ils étaient passés par là. C'est comme cela que l'ennemi fait. Il y a des chrétiens, il y a des églises, elles ont fait sacrifice mais n'ont rien protégé. Ils ont cru qu'ils pouvaient s'abstenir de veiller et de prier. Je vais vous dire une chose. Si le réveil a échoué en France, c'est parce que beaucoup ont cru que tout était acquis. Je vais vous dire une bonne chose. Il faut bien plus de prières et de jeûnes pour conserver un réveil que pour le promouvoir ou le provoquer. Oh, pasteur. Non, je vous redis ça. Il faut plus de jeûnes et de prières pour conserver un réveil dans un pays que pour le provoquer. Et si nous avons oublié ces éléments, il ne restera que des os. Alors Abraham aurait pu dire, « Oh Seigneur, j'ai fait mon sacrifice, j'ai fait ma part, ça fait 2 heures maintenant que je surveille, j'ai chassé un peu les mouches là, mais là il commence à faire très chaud, laisse, je vais boire un peu là, je vais me rafraîchir un peu la tête, et quand il revient, il trouve que des os. Oh Seigneur, c'est pas grave, le sacrifice est toujours là, tu vas passer, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas intéressé par les restes. Est-ce que vous voulez laisser des restes au Seigneur ? Il faut protéger votre vie. Les gens sont méchants. Les gens qui sont animés par Satan sont méchants. Ils guettent pour vous voler. Et quand ils voient que vous avez donné votre cœur au Seigneur et que vous êtes plein d'amour, ils cherchent à détourner ce sacrifice-là et à profiter sur votre dos. Oh, il ne faut pas craindre, mais il faut être vigilant. Un chrétien doit avoir l'intelligence de Dieu. Ce que vous n'avez pas pu conserver pour Dieu, le diable vous le prendra. Vous savez, nous venons au monde nus, nous sortons nus du sein maternel et nous retournons à la poussière. Nous n'avons rien et nous laissons tout. Quoi bon vouloir s'accrocher à ce qui restera ? Abandonnez avec le Seigneur et mettez cela dans le trésor du ciel. Abraham a su mettre le bouclier de la foi dans son sacrifice. Et Dieu l'a honoré. Le bouclier de la foi, mes amis, est une lutte permanente pour la bénédiction. Que se passe-t-il ? Les oiseaux, maintenant, sont bien énervés. Ils tournent aussi depuis le matin et ils ont toujours l'espoir. Mais voilà ce qui se produit. La journée se finit enfin. Et je vais vous dire, il y a un moment où les oiseaux de proie doivent retourner dans les lieux arides. Alléluia. Et il y a un moment où c'est ta bénédiction. Non, voilà maintenant, c'est ta bénédiction. C'est le temps de dire au nom de Jésus, ténèbres, venez chercher ces oiseaux de proie. Ténèbres, reprenez ces oiseaux de proie. Oiseaux de proie, voilà la nuit, partez maintenant dans les lieux arides. Alléluia. Non, je prêche ce soir. Il y a une délivrance pour quelqu'un. Il y a une délivrance ce soir. Nous avons l'autorité. Nous allons lutter jusqu'au bout, c'est la foi. Le bouclier de la foi fait apparaître la puissance que nous avons de chasser l'ennemi dans les lieux arides. Le texte est on ne peut plus clair. Nous voulons suivre un peu plus loin au verset 17. Ô Seigneur, nous te remercions. Vous savez, il y a tant de choses à dire dans la parole. Les idées se bousculent dans mon esprit et je vais essayer d'être clair jusqu'au bout. Je ne veux pas dire plus et je ne veux pas dire moins. Ce soir, le Seigneur m'a demandé un acte de foi et je crois que nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Il y a des gens qui doivent offrir leur vie pour le service, qui doivent servir Dieu. Des hommes et des femmes qui sont destinés à entrer dans la moisson du Seigneur. Je parle sérieusement. Ils doivent servir le Seigneur. Ils vont être père et mère d'une multitude. C'est ainsi que Dieu fait de nous des parents spirituels. Ah, mais pasteur, oui, je vous dis que le chrétien doit être un parents spirituels. Il doit engendrer lui-même et il doit avoir des enfants spirituels à nourrir, à amener à l'église. Le pasteur ne peut pas faire tout le travail. Michel ne peut pas faire tout le travail. Vous devez enfanter pour amener des gens afin qu'ils suivent les enseignements du combat spirituel. Alléluia! Partout où vous êtes, vous avez la puissance d'être des pères et des mères spirituels pour faire découvrir la valeur de ces enseignements, de cette onction, de ces chants puissants au sein du combat spirituel. Je vous prêche le combat ce soir. Dieu m'a dit, prêche le combat. Ne te prive pas. Alors ce soir, Dieu m'a demandé un acte de foi. Il m'a dit, voilà, il faut qu'à la suite de ce message, ceux qui doivent servir le Seigneur, qui ont un appel précis dans leur cœur, puissent concrétiser publiquement et faire alliance en plein jour avec moi. Il faut qu'ils disent maintenant, Seigneur, je te livre ma vie parce que je veux être père d'une multitude. Alors j'ai pris l'onction d'huile, je la fabrique moi-même, ne vous inquiétez pas, je prends de la bonne huile extra vierge, j'y mets quelques parfums. Vous savez que la composition de l'huile d'onction, nous ne pouvons pas la reproduire. Mais selon ce que Dieu a dit à Moïse, nous avons les éléments, la myrrhe, l'aloès, etc. Et donc nous pouvons retrouver certains parfums et pour nous rapprocher du symbole, nous pouvons faire une huile qui soit parfumée. C'est pourquoi je la fais moi-même et quand je pars en mission, je prends toujours ce symbole. Ce n'est pas magique, ce n'est pas de la superstition, c'est de l'obéissance. Alléluia! Ce n'est pas parce que le diable fait de la magie que nous, nous ne devons plus faire l'obéissance. Alléluia! Ce n'est pas parce que le diable fait de la magie avec des choses que nous, nous devons trembler et ne plus obéir lorsque la parole de Dieu dit « tu oindras ». Et je vous assure qu'il n'y a pas que des malades physiques. Si vous ne servez pas le Seigneur alors que vous êtes appelé, vous aurez une maladie mentale terrible. J'ai vu des gens tomber dans le lit parce qu'ils ont résisté à l'appel de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous oigne d'huile et qu'on vous bénisse afin que l'Éternel entende ce soir votre engagement. David a été oint 3 fois. Ce n'est pas une consécration que nous allons faire ce soir. C'est prophétique. Le message a percuté ton cœur. Hier, tu as été bouleversé. Et le Seigneur t'a dit, je t'appelle à mon service. Je te demande de t'engager dans la foi. Je te demande de révéler publiquement que tu veux me servir. Que tu veux aller t'occuper un peu des affaires de la croix. Alléluia! Quelle bonne chose pour un évangéliste. S'occuper des affaires de la croix. Alléluia! Décrocher Jésus. Le montrer dans le sépulcre. Montrer Jésus au monde ensanglanté. S'occuper des affaires de votre Père céleste. Le temps vient, Jésus est à la porte. Le temps est court, très court. Je suis persuadé que nous allons voir l'enlèvement. Nous allons voir l'enlèvement. C'est certain. Nous sommes tellement proches. Les événements se bousculent de partout. Nous allons nous occuper des affaires de notre Père. Alors ce soir, ce n'est pas une consécration. C'est une onction prophétique. C'est une consécration prophétique, tel David qui avait été oué une première fois, une seconde fois devant la moitié d'Israël et une troisième fois devant tout Israël. On peut recevoir plusieurs fois l'onction, tout dépend de la prière qui est prononcée sur nous. Ce soir, avec les hommes de Dieu, nous allons prier pour ceux qui veulent s'engager à servir le Seigneur. Et nous allons faire une prière prophétique sur eux d'engagement. Ce n'est pas une prière de consécration, je le répète, vous n'allez pas ressortir avec un diplôme. Il va falloir maintenant que vous entriez dans l'apprentissage du service, que vous soyez pris en charge par des pères spirituels. Il va falloir que vous commenciez à faire vos preuves et ensuite peut-être Dieu vous permettra d'être honoré par une certification. Alors le Seigneur m'a demandé de faire cela et nous allons le faire tout à l'heure dans la paix. Nous allons reprendre verset 17. Quand le soleil fut couché, alléluia! Quand le temps de l'épreuve est fini, quand tu as fini de te servir du bouclier de la foi, tu vas pouvoir constater que les oiseaux du ciel doivent partir. Il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante, alléluia! Le feu de l'onction! J'aime l'onction, mon Père! Oh mon Père, j'aime l'onction, ne me prive jamais de ton onction. précieux Saint-Esprit, que ton feu nous entraîne dans la gloire. Voilà maintenant ce qui se produit. Ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Alléluia. La bonne odeur a été conservée jusqu'au soir. Cela est prophétique. Cela veut dire que nous conservons et nous protégeons notre sacrifice jusqu'à ce que Dieu oigne puissamment. Il y a des gens qui sont appelés au service de Dieu et ils ne reçoivent pas encore une onction de guérison, une onction de miracle, une onction de prophétie, une onction pour parler aux foules. Mais ils doivent conserver, ils doivent être patients jusqu'au jour où Dieu va passer. Alléluia ! En 95, Dieu est passé sur ma couche. La nuit, il est passé sur moi. Le feu est passé. J'ai reçu une puissance ce jour-là. Il faut être patient. La fournaise va passer entre les animaux. Alléluia. La fournaise de Dieu va passer sur toi, dans ton cœur. C'est une chose certaine. La fournaise est passée. Cela est prophétique, comme je le disais. Image prophétique. Nous devons patienter, protéger nos vocations, ce que nous avons livré au Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse. Il y a des femmes qui sont avec des maris inconvertis. Il y a des hommes qui sont avec des femmes inconverties. Il y a des parents qui ont des enfants encore inconvertis. Protégez votre engagement chrétien. Protégez votre engagement chrétien. Tenez bon, luttez, les oiseaux de proie tournent pour vous faire partir de vos engagements, pour vous faire lâcher prise, pour vous faire abandonner votre sacrifice. Mais tenez bon. Le Seigneur va faire descendre la nuit sur nos ennemis et il va nous donner le feu de sa fournaise. Alléluia. Nous aurons la victoire, n'est-ce pas? Et lorsque nous devrons mourir et quitter cette terre, lorsque nous devrons partir pour toujours dans le ciel, nous pourrons connaître que dès l'aube, dès le matin de notre vie avec Jésus, dès le matin de la rencontre de notre Sauveur jusqu'au soir de notre vie, nous avons agité le bouclier de la foi devant tous les démons de l'enfer. Alléluia. Et chaque fois qu'un oiseau de proie s'abat, chaque fois qu'une flèche enflammée du monde des ténèbres est venue contre nous, nous l'avons écartée de nos vies et de notre sacrifice. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici ce soir. Oh, nous bénissons son nom. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et voilà maintenant qu'il nous amène à un acte de foi. Quoi est-ce que cela servirait que nous recevions les armes de Dieu pour rester campés dans nos maisons? Si nous recevons les armes de Dieu, c'est pour sortir en plein combat. Alléluia. Merci. Que Dieu soit béni. Vous déjà, dont le cœur commence à battre. Il y a des gens, ils sont là et la poitrine commence à se déplacer comme ça. Le cœur bat. Vous savez que Jésus vous a appelé à le servir. Vous savez que vous avez une vocation. Vous savez que vous devez promouvoir ce type de réunion. Ne cherchez pas au loin ce que vous avez auprès. Vous devez promouvoir. Alors peut-être personne ne sait que vous avez un appel. Vous n'êtes pas encore visiblement dans votre appel. Mais au fond de votre cœur, Dieu vous dit, il faut que tu me serves, il faut que tu portes la bonne nouvelle, parce que les temps sont courts. Oh, je vais vous dire, il y a des gens ici qui ont vraiment une bénédiction extraordinaire. Ils ne savent pas qu'ils sont, qu'ils arrivent à la dernière minute. L'horloge de Dieu va sonner. Nous sommes dans les derniers instants de l'humanité. Et ceux qui s'engagent dans le ministère maintenant n'auront pas à souffrir tout ce que nous avons souffert, nous, dans le ministère, pour en arriver là. Est-ce que vous savez ce qu'un homme de Dieu peut souffrir pour vous permettre d'être ici? Il y aura des centaines de gens qui seront au bénéfice de votre engagement. Oh, l'Esprit de Dieu est ici. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir une âme venir se mettre à genoux et pleurer sur ses péchés. Oh, si vous pouviez connaître l'émotion lorsque nous voyons un malade guéri, lorsque nous voyons un enfant pleurer. Il sait que papa vient de se convertir. Il sait que papa ne rentrera plus sous à la maison. Il sait que papa ne frappera plus maman. Est-ce que vous savez ce que c'est le bonheur de voir une fille changer? Vous êtes ouvrier pour Dieu. Vous êtes ouvrier pour Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est lorsqu'une âme est délivrée de l'enfer? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'émotion d'amener une brebis à la bergerie. Est-ce que vous savez ce que c'est que de prendre une âme et de l'amener dans la maison du Père? C'est pour vous ce soir. Il y a des millions de gens à sauver. Ne les voyez-vous pas périr dans les flammes de l'enfer? Il y a des chrétiens à côté de vous qui périssent. Ils sont enchaînés. Est-ce que vous connaissez la joie? Et lorsque vous verrez leurs chaînes tomber, vous pleurerez de joie. L'émotion et la félicité du ciel sera pour vous. Les anges viendront vous visiter la nuit. Vous entendrez le bruissement de leurs ailes. Et vous saurez que l'Éternel est passé au milieu de votre sacrifice.